C'est quoi ce pays de merde?
Oui, non, d'abord, il ne faut pas dire des choses comme ça. Hein. C'est pas bien. Hein.
Merci.
Moi, je m'en vais. C'est un assassin.
La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire.
Je n'oublierai pas devant nous les casquets, les fusils lance-grenades et les grands boucliers. Tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains. Il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près. Eux devaient la boucler, nous pareil on chantait.
Oh allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça. Allez les gars.
Qu'il y a des anarchistes dans le salon.
Bonjour, il est 13h sur Radio U. Chérie, je crois qu'il y a des anarchistes dans le salon, une hebdomadaire d'actu en direct tous les lundis à 13h et en réécoute le jeudi à 10h30 sur Radio U, le 101.fm. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait du direct puisque je suis à environ 800 km du studio de Radio U, mais on va faire comme si. Alors c'est parti pour une demi-heure d'infos sélectionnées. En Loire-Atlantique, un projet d'implantation d'un centre Amazon de 185 000 m² sur la commune de Montbert au sud de Nantes vient d'être abandonné par les élus. Voilà, donc c'est une victoire face à Amazon. Et en Finistère, le collectif Stop Amazon Briec a bloqué le début des travaux ce vendredi 5 novembre. Alors leur revendication, c'est l'arrêt des travaux et un référendum départemental pour enfin permettre un débat démocratique qui a jusque-là été dénié par les élus de Quimper, Bretagne occidentale et par le village de Briec. Voilà, donc la lutte, elle continue contre Amazon et son monde. Vous pouvez suivre la lutte à Briec par le collectif Stop Amazon Briec grâce à leur site internet www.stopamazon.bzh. Et je vous relaye maintenant un communiqué d'appel à soutien et de mobilisation contre les frontières qui vient de Briançon. Appel à soutien et mobilisation du Briançon. Aujourd'hui, le 2 novembre 2021, la situation dans le Briançonnais ne cesse de se complexifier. La frontière franco-italienne continue d'être le théâtre d'inégalités toujours plus marquées entre les personnes exilées et les Européens et Européennes. Alors que près de 50 personnes passent cette frontière quotidiennement, dans l'espoir de pouvoir demander l'asile parfois dans d'autres pays européens, l'État français continue son travail méthodique de précarisation et d'enfermement des personnes sans papier. Chaque année, depuis 5 ans, l'arsenal répressif ne cesse d'augmenter, rendant les conditions de passage de plus en plus dangereuses. Certaines lignes de bus locales sont modifiées, rendant la traversée plus complexe. Ailleurs, les services sociaux ou sanitaires sont interdits d'exercer leurs fonctions auprès des personnes exilées et les soutiens logistiques sont très largement entravés. Les rafles se multiplient partout en France. Cette persécution étatique sur des personnes qui voyagent, pour certaines depuis plusieurs années dans des conditions extrêmement difficiles, entraîne de nombreuses tensions et difficultés, à la fois en Italie mais aussi en France, dans un contexte qui n'était déjà pas facile à solutionner. La préfecture, en empêchant minutieusement les personnes de se déplacer librement, alimente et cristallise des tensions qui ne servent qu'à légitimer un discours raciste et xénophobe qui ne manque pourtant pas de relais. Dans ce contexte extrêmement tendu, le refuge solidaire de Briançon a momentanément interrompu l'accueil aux exilés le soir du 24 octobre, invoquant un manque de sécurité et de dignité pour les personnes accueillies là-bas. Cette tentative de rapport de force avec l'État français, dans l'attente de l'ouverture d'un second lieu d'accueil d'urgence pris en charge par l'État, s'est traduite par les occupations de la gare SNCF de Briançon ainsi qu'une salle communale vide. Les seules réponses des autorités auront été l'évacuation de ces lieux et une fois de plus, l'arrivée de près de 200 gendarmes mobiles supplémentaires dans le Briançonnais, ainsi que 10 agents supplémentaires à la police aux frontières de Montgenèvre, faisant gonfler les effectifs du corps répressif à près de 400 individus. De nombreuses personnes continuent de tenter leur chance sur ces chemins. La traque en montagne, encore une fois renforcée par des moyens humains et technologiques toujours plus sophistiqués, va inévitablement contribuer à pousser les exilés à prendre encore plus de risques. Nous, des personnes solidaires auto-organisées, les collectifs et associations du Briançonnais lançons un appel d'urgence afin de mobiliser des militants militantes dans les plus brefs délais pour continuer d'organiser une solidarité d'urgence sur les besoins élémentaires des exilés qui arrivent à Briançon, informer ces personnes, relayer des informations et être présente face au non-respect des droits des personnes exilées par les forces de l'ordre, pour organiser des permanences jour et nuit en vue d'une prochaine réouverture du refuge solidaire et ou d'un second lieu d'accueil d'urgence, pour, partout sur le territoire, accueillir, informer et soutenir les personnes sans papier. Et enfin, une manifestation aura lieu à Briançon le 13 novembre 2021, rendez-vous à 14h devant la médiathèque. Toutes les compétences et les motivations de votre part sont les bienvenues, notre énergie n'est pas infinie. Contre les politiques racistes de l'État et ses frontières, mobilisons-nous. J'avais maintenant envie de vous lire un extrait du manifeste féministe pro-droit des travailleuses et travailleurs du sexe. Alors seulement un extrait parce qu'il est assez long. Le manifeste, il a été publié déjà il y a quelques mois. En tout cas, le site internet, il buguait un petit peu dernièrement. Donc on peut le retrouver maintenant en lecture complète. Et on peut également le signer, ce manifeste, en tant qu'individu ou en tant que collectif. L'adresse du manifeste, c'est https://manifesteféministe.eu.org. Alors, c'est parti. Féministes de mouvances diverses, nous proclamons notre solidarité envers toutes les travailleurs et travailleuses du sexe. Nous affirmons qu'elles et ils ne sont en aucun cas coupables, délinquantes, déviantes, amorales ou déchues. Nous soutenons toutes les personnes vendant des services, performances ou produits artisanaux à caractère sexuel, peu importe la manière dont elles choisissent de se nommer. Travailleurs, travailleuses du sexe, prostituées, acteurs, actrices porno, camgirl, camboy, escorte, etc. Nous nous opposons fermement à leur exclusion, leur pénalisation, leur judiciarisation, leur discrimination et leur stigmatisation, qu'elles et ils veuillent cesser leur activité ou non. Nous les soutenons inconditionnellement dans leur lutte contre la putophobie. Comme jadis nos consoeurs du mouvement de libération des femmes, nous affirmons notre sororité et notre adelphité. Les luttes des travailleurs et travailleuses du sexe, pour leurs droits, sont féministes et intersectionnelles, et c'est pourquoi nous nous engageons à œuvrer pour leur inclusion dans le mouvement. Nous portons la volonté de faire reconnaître leur expérience et de permettre la valorisation des connaissances que leur confèrent leur vécu et leur point de vue sur les normes de genre. Comme au sein des mouvements LGBTQI+, elles peuvent renverser le stigmate et sortir de la honte et du silence, quelles que soient leurs expériences. Le féminisme pute n'est pas un oxymore. Le travail du sexe s'inscrit dans le combat pour la reconnaissance du travail des femmes, gratuit, sous-évalué ou sous-payé, exploité dans les structures hétéropatriarcales domestiques, le travail reproductif, le travail émotionnel, le partage des tâches ménagères, travail du care, etc. Reconnaître le sexe comme un travail exigeant une compensation matérielle ou financière explicite visibilise le travail sexuel, la séduction et la performance de la féminité fournie gratuitement dans les structures transactionnelles traditionnelles de l'hétéropatriarcat. Nos relations intimes et les institutions telles que le mariage n'échappent pas aux contraintes du capitalisme. Nous, féministes, luttons contre les inégalités pour que les personnes les plus opprimées et marginalisées telles que les personnes migrantes, sans-papiers, racisées, LGBTQI+, handicapées, issues des quartiers populaires ou de classes dites défavorisées, puissent se libérer des contraintes qui les acculent à de mauvaises conditions de travail et d'existence. L'exploitation, la violence, la précarité et les déterminismes socio-économiques concernent tout le monde, pas seulement les travailleurs et travailleuses du sexe. Les stratégies qu'elles et ils déploient pour améliorer leurs conditions de vie sont donc tout aussi légitimes que celles des ouvriers, ouvrières et des autres travailleurs, travailleuses et citoyens, citoyennes. Nous rejetons l'intervention de l'État à des fins de prohibition, c'est-à-dire l'interdiction totale ou partielle du travail sexuel sanctionnant les travailleurs, travailleuses, leur lieu d'exercice et les personnes qui les entourent. De façon pragmatique, nous appelons à la pleine décriminalisation du travail sexuel, quel que soit le secteur d'activité. Toutes les mesures de prohibition accroissent la clandestinité, favorisant ainsi les situations d'exploitation et engendrant des conséquences néfastes sur la santé et la sécurité des personnes. Fausse bonne idée, la pénalisation des clients pousse les travailleurs et travailleuses du sexe à exercer dans des lieux encore plus isolés et reculés où elles sont vulnérables. Face au risque de verbalisation, nous assistons non seulement à une raréfaction de la clientèle, mais aussi à un changement d'attitude de celle-ci. le déplacement vers les périphéries urbaines plus discrètes mais aussi plus propices à la violence ainsi que l'exposition des clients aux risques répressifs ont fait émerger, depuis 2016, un contexte qui renforce le rapport de force des clients et en conduit certains à négocier davantage, imposant le lieu de rencontre, les prix et les pratiques. Parallèlement, aucune amélioration n'a été constatée quant aux facteurs socio-économiques qui incitent les personnes à exercer le travail sexuel, et le nombre de travailleurs et travailleuses du sexe n'a pas significativement diminué. Contrairement à ce que voudraient nous faire croire les mairies et les préfectures en adoptant des arrêtés anti-prostitution et anti-stationnement des camionnettes, les travailleurs et travailleuses du sexe ne sont pas des nuisances, mais bien des citoyens-citoyennes. La prohibition, la criminalisation et la répression portent atteinte à la santé et aux droits humains en créant un climat hostile et délétère qui rend les travailleurs et travailleuses du sexe vulnérables à la violence d'individus, des services sociaux, de la police, des agents des services d'immigration, du pouvoir judiciaire et plus largement aux violences institutionnelles. Nous rejetons aussi le réglementarisme, c'est-à-dire la mise en place de lois spécifiques encadrant le travail sexuel et définissant les conditions dans lesquelles il doit s'exercer, lieu de travail imposé, dépistage des IST obligatoires, etc. Ce modèle crée un système à deux vitesses où les personnes ne pouvant accéder au statut officiel sont toujours autant abandonnées des politiques publiques. L'État a toujours échoué à protéger les travailleurs et travailleuses du sexe, y compris à l'époque des maisons closes et de l'hygiénisme, où la prostitution était comparée aux égouts et aux immondices. Nous contestons la représentation stigmatisante des travailleurs et travailleuses du sexe comme vecteurs et vectrices de maladies vénériennes. L'hygiénisme est ancré dans le contrôle des corps féminins et la répression des sexualités considérées comme déviantes, alors que les travailleurs et travailleuses du sexe sont en première ligne de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, notamment contre le VIH, et ont largement adopté les moyens de prévention et de réduction des risques d'infection dès lors qu'ils étaient disponibles. Nous estimons que les lois actuelles entourant le travail sexuel sont inadaptées et contre-productives, puisqu'elles se retournent contre les personnes qu'elles sont censées sauver et protéger. Imposant aux travailleurs et travailleuses du sexe d'exercer de façon isolée, elles les contraignent à sacrifier leur sécurité pour éviter leur criminalisation, leur pénalisation et celle de leurs proches. Telle qu'elle est définie dans la loi française, l'infraction de proxénétisme favorise aussi les situations d'exploitation et de dépendance de tiers, tout en restreignant l'accès à certains droits fondamentaux. En effet, la définition légale du proxénétisme est extrêmement large. Et je vais m'arrêter là, puisque le manifeste il est très très long, mais on peut le retrouver, donc comme je le disais, sur le site manifestefeministe.eu.org.
Chérie, je crois qu'il y a des anarchistes dans le salon.
Le pass sanitaire ne devait pas être mis en place, finalement si, mais promis jusqu'au 15 novembre 2021, et finalement, ce sera peut-être plus que le 15 novembre. Je vais vous relayer maintenant un appel pour un rassemblement festif pour la « fin » entre guillemets du pass sanitaire. C'est un communiqué signé par le CABAL, le collectif brestois pour l'autonomie des luttes. Donc l'appel, il est pour le 15 novembre à 18h30, place de la Liberté. Mesure autoritaire s'il en est, le régime dit transitoire de l'état d'urgence sanitaire se termine ce 15 novembre, levant ainsi son lot de limitation des déplacements ou d'ouverture des établissements recevant du public, ses possibles interdictions de réunion ou de manifestation. Ce régime s'inscrit dans un mouvement d'empilement de lois et dispositifs autoritaires de contrôle et de répression, loi sécurité globale, loi Collomb, décret de fichage, état d'urgence, couvre-feu, etc., et ce, sans sembler connaître de frein à leur déferlement. Le dernier né, le pass sanitaire, semble être le parangon de cette tendance qui se poursuivra après la fin du régime transitoire de l'état d'urgence sanitaire. Ce pass poursuit une vieille logique déjà à l'œuvre dans les politiques de surveillance et de répression. Il s'agit de contrôler et de mieux exclure. Ainsi, les politiques nationalistes de contrôle des personnes étrangères ne permettent l'octroi de titres de séjour ou de visa uniquement sur la base du respect de certains critères, dont l'âge, l'emploi, le pays d'origine, etc. La police contrôlant la possession de ces titres, l'exclusion au nom du territoire peut être prononcée par l'État. Cependant, le pass sanitaire réactive cette logique de manière bien plus globale et tentaculaire. Désormais, des milliers de personnes peuvent et se doivent d'être agentes du contrôle, dès lors qu'elle possède un smartphone avec lecteur de QR code, échappant totalement à toute assermentation comme à toute possibilité de retrait. Parallèlement, tous et toutes peuvent être contrôlés et possiblement exclus, d'un bar, d'une médiathèque, d'un train, d'un emploi, etc., et ce, sur l'ensemble du territoire. Ainsi se dresse la frontière entre le bon citoyen détenteur du sésame scanné et le marginal co-responsable de la pandémie. Initialement prévu pour être abandonné le 15 novembre 2021, soit un peu plus de 3 mois après sa mise en place, le pass sanitaire sera prolongé jusqu'à l'été 2022. Néanmoins, il nous semble important de célébrer pleinement la fin du régime transitoire ainsi que ce censé retrait du pass, notamment pour rappeler que ce qui a été construit peut toujours être défait. Nous vous invitons donc à déambuler lors d'une manifestation festive au Flambeau le 15 novembre à partir de la place de la Liberté à 18h30. Viens, bisous! Et toujours dans les mobilisations sur Brest, le 20 novembre, il y a un appel à se retrouver à 17h, place de la Liberté, pour le TIDOR. Donc le TIDOR, c'est le Trans Day of Remembrance. En français, c'est la journée du souvenir trans. C'est une journée à laquelle on commémore tous les ans la disparition de nos sœurs, de nos frères et de nos adelfes trans assassinés ou poussés au suicide en raison de leur transidentité. Voilà, donc il y a des appels qui tournent un petit peu sur les réseaux sociaux. Le planning familial, notamment, a relayé cet appel. C'est à l'appel d'un collectif informel de personnes trans sur Brest. Voilà, et toujours sur Brest, ce lundi 8 novembre, à 20h au cinéma Les Studios, il y a un ciné-débat en présence de David Dufresne, qui a réalisé le documentaire « Un pays qui se tient sage ». Voilà, donc, le petit présentation. À partir d'images brutes collectées lors de manifestations, David Dufresne propose une passionnante réflexion collective sur l'état et l'usage de la violence. Voilà, donc il y a eu une interview très intéressante dans la quotidienne de Radio U, C'est vous qui le dites, vendredi dernier. Elle est disponible en réécoute sur le site de Radio U, donc c'est le CVQLD. C'est Nola qui a interviewé David Dufresne. Et un autre appel à se retrouver à Brest, c'est ce 10 novembre. Ça a été publié notamment par la CNT Interpro Brest. C'est un grand mouvement national, une grève nationale de la culture pour un accueil de toutes et de tous, donc dans les bibliothèques, dans les musées, dans les cinémas, dans les salles de spectacle, là où le pass sanitaire est obligatoire. Donc à Brest, donc le 10 novembre, proposition est de se retrouver à 12h30 devant les ateliers des Capucins. Et voilà, chérie, je crois qu'il y a des anarchistes dans le salon, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors cette émission, elle est rediffusée ce jeudi à 10h30 sur Radio U, toujours. Et bientôt, on retrouvera en podcast sur le site de Radio U. On va se quitter avec deux morceaux, puisque j'ai pas réussi à choisir entre les deux. On écoute d'abord Gender is Boring, et ensuite I Think I Finally Love Myself. C'est deux morceaux de She, Her, Hers. Bonne journée et à la semaine prochaine.
I wanted to be a princess, I never asked anyone to braid my hair. I never asked my mom to buy me things that I saw on the TV marketed towards girls. I never wanted to wear a dress, and I was never obsessed with the color pink or sparkly things, unicorns or fucking fairy wings. Gender never really meant that much to me, till people started telling me how it was supposed to be, till the people that I love started to say, boys, don't talk that way. Boys, don't dress that way. Boys, don't act that way. The problem I have with gender is that I'm not even sure whether I know what I mean when I say I'm a girl because I feel that way. Boys can wear dresses and makeup, anyone can wear whatever they want. Girls can have short hair and muscles, and that's where I run into trouble. Cause if I use she pronouns, well what does that mean? Am I reinforcing a gender binary that I don't believe in, that I don't adhere to? I say I'm a woman, what's that supposed to tell you? Gender doesn't tell you a damn thing about me. doesn't tell you what I like or how I act. It doesn't tell you how I speak. The people you love, they don't love you if they say, boys, don't talk that way. Boys, don't dress that way. Boys, don't act that way. I think it's time that our culture moves past this fucked up notion that the way we act is dictated at birth or that we have to choose. It's an imposed binary, either way we lose. So do what you want or dress how you feel. Don't let anyone tell you that gender is real. It's useless, oppressive, and boring. Worthless and hurtful and stifling. I think it's time that we put it in its place. From conflict gender into an early grave. I never again want to hear anyone say, boys, don't act that way. Girls, don't act that way. Boys, don't act that way. Boys, don't act that way.
Some days, if I could give this all up, you know I would. If I could trade pissing behind a rest stop in Kansas, fear of the looks of road tripping families and truckers, for a college degree and comfort in my assigned gender, you know that I would. You know that I would. No one really gets to choose the person they are. I did not get to choose how I was born, and I choose how I die. I will probably live in doubt for the remainder of my life that the choices I'm making just aren't right. Most days I feel stronger and more beautiful all of the time. I am more confident and self-aware than I have ever been in my life. And I am happy to be happy with all of my faults. I am content to be content with all of my flaws. No one really gets to choose the person they are. I did not get to choose how I was born, but I can choose how I'm living. I will probably harbor some doubts, but mostly I feel fine. Fuck that, I feel fantastic. I am living with enthusiasm, reckless abandon. I wouldn't trade my life with anyone, and I wouldn't give this up for anything. And I think I finally love myself, and nothing and no one could ever take that away from me. And I think I finally love myself, and nothing and no one could ever take that away from me. And I think I finally love myself, and nothing and no one could ever take that away.